Chapitre 7. Dors passa la tête à la porte. « Ai-je le droit d'entrer ?»«
Non, bien sûr que non, quelle idée. Ce n'est pas ton bureau habituel. »«
Je sais, » soupira Seldon. « On m'en a chassé à cause de cette stupide fête d'anniversaire comme j'aimerais qu'elle soit déjà finie.
Je te l'avais bien dit. Quand cette bonne femme se met une idée dans la tête, elle prend toute la place, on croirait le Big Bang. »
Seldon changea de camp aussitôt.
« Allons, Dors. Ça part d'une bonne intention. Épargne-moi le couplet sur les bonnes intentions.
Quoi qu'il en soit, je viens te voir pour discuter d'autre chose, une chose qui pourrait être importante.
Vas-y.
De quoi s'agit-il ?
J'ai parlé avec Vanda au sujet de son rêve, dit-elle un peu hésitante.
Seldon émit un bruit étranglé.
Laisse tomber cette histoire.
As-tu pris la peine de l'interroger sur les détails de son cauchemar ?
Pourquoi aurais-je soumis la pauvre petite à une telle épreuve ?
Reich et Manella ne l'ont pas fait non plus. On m'a laissé m'en charger.
Mais pourquoi la torturer avec toutes ces questions ?
Parce que j'avais le sentiment qu'il le fallait,
dit Dors résolu.
Pour commencer ce rêve, elle ne l'a pas fait dans son lit.
Où était-elle donc ?
Dans ton bureau.
Que faisait-elle dans mon bureau ?
Elle voulait voir l'endroit où se déroulerait la fête.
Elle est donc entrée dans ton bureau et bien entendu, il n'y avait rien à voir puisqu'on avait tout vidé en prévision des festivités.
Mais ton fauteuil était toujours là, le grand, avec le haut dossier et les larges accoudoirs, ce siège tout défoncé que tu ne veux pas que je remplace.
Harry soupira. Ce fauteuil était l'objet d'un différend de longue date.
Il n'est pas défoncé et je n'en veux pas un neuf. Continue.
Elle s'est blottie dans ton fauteuil et elle a commencé à ruminer. Elle se sentait oppressée.
Puis, m'a-t-elle raconté,
elle a dû s'endormir car ses idées ne sont plus très claires.
Elle se souvient juste que dans son rêve il y avait deux hommes, pas des femmes, elle en est sûre, deux hommes qui parlaient.
Et de quoi parlait-il ?
Elle ne sait pas au juste. Tu sais comme il est difficile de se souvenir des détails d'un rêve, mais elle dit qu'il parlait de la mort, et elle a cru qu'il parlait de la tienne puisque tu es si vieux. Elle se rappelle clairement d'une phrase.
En donnant ses parts de sorbet aux siens.
Quoi ?
En donnant ses parts de sorbet aux siens.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Je n'en sais rien.
En tout cas, la discussion s'est interrompue, les deux hommes sont partis, et elle s'est réveillée dans le fauteuil, glacée et terrorisée. Depuis, elle est toute bouleversée.
Seldon réfléchit aux propos de son épouse.
« Enfin, chérie, » finit-il par dire, « quel crédit peut-on accorder aux rêves d'une enfant ?»«
Commençons par nous demander, Harry, s'il s'agissait bien d'un rêve. »
« Que veux-tu dire ? »
Vanda n'a pas été aussi affirmative.
Elle a simplement dit « j'ai dû m'endormir », ce sont ses termes.
Elle n'a pas dit qu'elle s'est endormie, mais qu'elle a dû s'endormir.
Qu'en déduis-tu ?
Elle peut s'être plus ou moins assoupie, et dans cet état de demi-sommeil avoir surpris la conversation de deux hommes réels, pas deux hommes rêvés.
Des hommes réels parlant de me tuer en nous donnant des parts de sorbet ?
Quelque chose comme ça, oui.
Dors, dit Seldon avec conviction. Je sais que tu vois le danger partout autour de moi. Mais là, franchement, ça va trop loin. Pourquoi voudrait-on me tuer ?
Il y a déjà eu deux tentatives, certes, mais replace-les dans leur contexte.
La première tentative a eu lieu peu après que Cléon m'eût nommé Premier ministre. Cette offense à la hiérarchie bien établie de la cour a été très mal prise.
D'aucuns ont estimé pouvoir régler la question en se débarrassant de moi.
La seconde fois, c'était quand les Joranumites cherchaient à prendre le pouvoir et croyaient que je leur barrais la route, sans parler des obsessions de vengeance de Namarti. Par chance, aucune des deux tentatives d'assassinat n'a réussi. Et pourquoi devrait-il y en avoir une troisième ? Je ne suis plus Premier ministre depuis bientôt 10 ans. Je suis un vieux mathématicien presque à la retraite. Personne n'a rien à redouter de moi. Les Joranumites ont été traqués et supprimés et Namarti a été exécuté depuis belle lurette. Il n'y a absolument aucun motif valable pour me tuer.
Alors s'il te plaît, Dors, détends-toi. Dès que tu t'inquiètes à mon sujet, tu t'agites, ce qui t'inquiète encore plus, et je ne veux pas de ça.
Dors quitta son siège pour se pencher par-dessus le bureau.
C'est facile de dire qu'il n'existe aucun motif de te tuer.
Mais il n'y a pas besoin de motif pour ça. Notre gouvernement est devenu complètement irresponsable.
Et s'ils veulent...
Stop ! Ordonna Seldon d'une voix forte. Puis, plus doucement,
« Pas un mot, Dors. Pas un mot contre le gouvernement. Cela pourrait nous attirer les ennuis que justement tu redoutes. »
Je ne parle qu'avec toi, Harry, pour l'instant. Mais si tu commences à prendre l'habitude de dire des absurdités, tu risques de les laisser échapper en présence d'un tiers qui sera peut-être ravi de te dénoncer. Alors apprends à t'abstenir de tout commentaire politique.
J'essaierai, Harry.
Dit Dors sans dissimuler son indignation. Elle tourna les talons et sortit.
Seldon la regarda partir.
Dors avait vieilli avec grâce, une grâce telle qu'elle semblait n'avoir pas vieilli du tout. Bien qu'elle n'eût que 2 ans de moins que Seldon, elle avait beaucoup moins changé que lui au cours de leurs 28 années de vie commune.
Évidemment.
Certes, ses cheveux grisonnaient, mais sous le gris, l'éclat de la jeunesse demeurait. Ses traits s'étaient légèrement creusés, sa voix était un rien plus grave, et bien sûr, elle portait désormais des vêtements adaptés à l'âge mûr. Toutefois, ses mouvements étaient plus agiles et vifs que jamais. C'était comme si rien ne pouvait entraver sa capacité à protéger Seldon en cas d'urgence.
Harry soupira.
Être en permanence protégé, plus ou moins contre son gré, était parfois un bien lourd fardeau.